Les mécanismes de la manipulation. Le savoir, c'est le pouvoir. Socrate a dit un jour, « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » Dans sa quête de sagesse, Socrate voulait faire part de son doute quant au fait de croire que l'on possède la connaissance. Ce n'est d'ailleurs pas le seul à faire ce constat, puisque Galilée dira, « Plus j'apprends, plus je m'aperçois que je ne sais pas. » Et dans le fond, c'est complètement paradoxal puisque savoir que l'on ne sait rien, c'est déjà savoir quelque chose. Mais leurs déclarations suivent un long processus de réflexion qui aboutit à une forme d'humilité concernant leurs propres connaissances et qui inclut la grande part d'ignorance que nous avons tous en nous. L'ignorance et la connaissance ont justement un rôle à jouer dans l'anti-manipulation. L'être humain a besoin d'être sûr de lui, de prendre les bonnes décisions. Notre cerveau n'est pas fait pour reconnaître nos manques, nos faiblesses. Posez une question à quelqu'un sur n'importe quel sujet et vous aurez sûrement une réponse, un avis, même si cette personne n'est pas certaine de sa réponse. À noter que la réponse est d'autant plus affirmative que la personne ne sait pas de quoi elle parle. Moins nous maîtrisons un sujet et plus nous parlons avec force, aplomb et conviction sur ce même sujet. Cela porte un nom, l'ultra-crépidarianisme. Étienne Klein s'est beaucoup exprimé sur ce sujet lors de la pandémie de 2020 suite à la sortie de son livre « Le goût du vrai ». Il explique que le terme « ultra-crépidarianisme » vient de la locution latine « sutor ne supra crepidam » qui signifie « le cordonnier ne devrait pas parler d'autre chose que de chaussures ». En résumé, plus nous sommes incompétents sur un sujet et plus nous en parlons avec assurance, avec un avis tranché. La polémique de la 5G. Prenons l'exemple de la 5G qui fait polémique depuis quelques mois au moment où j'écris ce livre. J'assiste dans les médias à des discussions houleuses de quelques chroniqueurs pour son déploiement, pendant que d'autres chroniqueurs sont complètement contre. Les mots fusent, les arguments tombent parfois comme des gifles, la tension entre les deux camps est réelle. Il suffirait pourtant que quelqu'un arrive en disant « Lequel d'entre vous peut m'expliquer exactement ce qu'est la 5G ?» Comment elle fonctionne, quel est le plan exact de déploiement sur le terrain et sur les appareils. Pas d'explication sur ce que vous croyez savoir, mais sur ce que vous savez réellement, de manière concrète. La tension se transformerait aussitôt en une grosse gêne dans les deux camps. Rien à blâmer, bien sûr. Nous sommes tous comme ça. Nos biais cognitifs nous aident à avoir rapidement un avis tranché. Vous avez sûrement un avis, vous aussi, sur le bio, les OGM, le nucléaire, les décisions politiques ou quelle voiture devrait acheter votre voisin. J'ai moi-même tendance à avoir des théories sur un peu tout. Néanmoins, je vais vous faire une confidence. Je suis un chanceux car je n'ai jamais de problème pour dire quand je ne sais pas quelque chose, quand je n'ai pas assez de données pour formuler un avis, ou encore quand il n'y a pas vraiment de réponse mieux qu'une autre à une question que l'on me pose. Ne croyez pas que ce soit mieux, car je connais également le léger agacement que ça provoque auprès de mon entourage de ne pas répondre. Je ne suis même pas capable de formuler une réponse simple si on me dit « Tu crois que tel magasin sera ouvert samedi prochain ?» Là où la plupart des gens auraient répondu « Sûrement » ou « Je ne pense pas », moi je bloque sur « Je n'en sais pas plus que toi ». Je pensais donc être immunisé à l'ultra-crépidarianisme, mais en y réfléchissant longuement, je vois que j'y suis soumis au travers de mes actes. Un exemple simple, j'ai tendance à privilégier la nourriture bio. Mais au final, je ne sais presque rien de cette appellation, quelles sont les obligations ou les interdictions pour les fabricants, etc. Je me suis fait un avis positif sur rien, ou disons pas grand-chose. Et chacun de mes actes est issu d'une croyance de connaissance de ma part lorsque le domaine concerné m'est étranger. Les seules personnes qui ne sont pas soumises à l'ultra-crépidarianisme sont les très sages, ainsi que celles et ceux qui ont la vanité de croire tout savoir, et qui donc sont en réalité en plein dedans. Ils ont juste l'impression de ne pas y être soumis. Soyons honnêtes, ça n'est pas parce que nous sommes capables de répondre avec confiance que nous sommes au clair sur notre savoir. Nous verrons ça dans quelques instants. Nous avons juste besoin de paraître confiants et sûrs de nous vis-à-vis des autres. Pour vous détailler comment cette illusion de savoir peut vous nuire face à une tentative de manipulation, j'ai besoin de vous raconter une anecdote. To speak English or not to speak. Nous sommes en tournée avec mon équipe pour jouer aux Pays-Bas, précisément à Amsterdam. À nous les vélos et les paysages bucoliques. Malheureusement non, la tournée d'un spectacle se résume bien souvent à passer une demi-journée dans une salle, une demi-journée en transport et une nuit à l'hôtel. Pour cette représentation, il s'agit d'un privé, c'est-à-dire une prestation où je vais jouer mon spectacle dans les mêmes conditions qu'une représentation classique, mais avec deux particularités. Le lieu est un endroit loué pour l'occasion, que l'on transforme en salle de spectacle. Le public est composé uniquement des employés d'une société. La société qui a acheté le spectacle est francophone. Je jouerai donc le spectacle en français. Néanmoins, nous savons qu'en arrivant sur place, la langue officielle du lieu, un hôtel, et des techniciens locaux sera l'anglais. Comme toujours, je suis accompagné par mes régisseurs, Gary et Diablo, et je ne me fais pas de soucis pour eux. Les techniciens ont un langage universel entre eux et se comprennent toujours à force de gestes et de blagues. Je pourrais écrire un livre entier sur nos conversations délirantes. Ils ont tous le même objectif, que les conditions pour le spectacle soient les meilleures. Sans compter que mon Diablo a une vingtaine d'années de spectacle derrière lui. Rien ne lui est impossible. Je me retrouve donc avec mon administrateur de tournée et je me demande s'il parle anglais. J'imagine que oui, sinon il m'en aurait parlé avant. Arrivé à l'hôtel, je le vois marcher moins vite que moi. Tout semble l'intéresser sur le chemin. C'est très étonnant car depuis des centaines de représentations ensemble, c'est toujours lui qui fonce littéralement au comptoir afin de vérifier que tout est en ordre pour le spectacle, pour vérifier les horaires et pour récupérer les clés des chambres pour tout le monde. Je commence à douter de son niveau d'anglais et j'assure donc le check-in puisque je me retrouve seul à la réception. La situation m'amuse, sans jugement, et je décide de laisser avancer la situation pour voir ce que ça va donner. En temps normal, je reste toujours dans la salle du spectacle toute la journée pendant le montage technique, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'aime être avec mes gars, immédiatement disponible s'il y a un problème à résoudre ou si on a simplement besoin de moi. Ensuite, parce que j'aime m'imprégner du lieu. Je sens que mentalement, je bascule en mode spectacle ce soir au fur et à mesure que l'installation technique se fait. Si j'allais me balader dans Amsterdam comme un touriste, je n'aurais pas le bon état d'esprit le soir venu. Et je ne parle pas d'aller dans un de leurs cafés typiques. C'est important de rappeler que le spectacle vivant, c'est du travail. Un travail. Donc cette fois-là, exceptionnellement, je vais m'installer dans le hall de l'hôtel pour travailler. Je sais que si mes gars ont besoin de moi, je ne suis qu'à 2 minutes 2. Mais mon absence va obliger mon administrateur de tournée à gérer avec le client et les techniciens locaux. Première phase. Je reçois des SMS de lui qui me demande, un peu insistant, dans combien de temps j'arrive. Je lui demande si on a besoin de moi, si Gary et Diablo veulent faire les balances, des tests de son et d'éclairage. Il me répond que non. Je lui explique donc que je vais rester au calme à travailler. Une heure plus tard, il déboule dans le hall, stressé comme jamais, et me demande de venir. Il m'explique qu'il y a un quiproquo pour les horaires du repas et du show, que je dois venir pour en discuter avec les personnes et les régisseurs. Je lui demande s'il ne peut pas régler ça et il me dit que c'est justement à moi de décider. Me voici donc dans la salle, je parle avec les responsables et m'aperçois qu'il n'y avait pas vraiment de grandes décisions à prendre, ni de quiproquo. Simplement une barrière de langage entre eux et mon administrateur de tournée. Je lui demande d'ailleurs s'il n'avait pas compris ce qu'il lui disait et il me répond « Si, mais c'est plus simple si c'était toi, quoi. » Nous, mes régisseurs et moi, nous sommes amusés à l'observer jusqu'au lendemain. Jour de notre départ, en train d'éviter toutes les conversations en anglais pour ne pas y être impliqué. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que, consciemment ou inconsciemment, il n'est pas naturel ou spontané pour le cerveau de dire « je ne sais pas » à quelque chose qui semble simple. Pourtant, parler une langue étrangère n'est pas simple, même si cette langue est parlée par beaucoup d'autres personnes. S'il m'avait demandé « Fabien, je ne suis pas très à l'aise en anglais, tu pourras faire la traduction ?» Je ne l'aurais pas jugé une seule seconde, moi-même ayant besoin de me remettre à niveau régulièrement et n'étant jamais très serein de devoir parler dans une autre langue. Mais l'être humain ne voulant pas paraître faible dans ses capacités cérébrales et son savoir, il a préféré surnager dans un mensonge par omission, vivant 24 heures de stress intense. Alors que, vous l'aurez compris, nous avions tous un regard amusé, mais bienveillant, sur la situation. Personne n'était dupe de ce qu'il faisait. Pour terminer ces explications, qui en apprennent long sur nous-mêmes, Ne laissons surtout pas notre cerveau nous faire croire que nous sommes différents de ce que j'explique ici. Je me dois d'aborder rapidement la connaissance rétrospective. La connaissance rétrospective est le fait de ne prêter aucune attention à ce que l'on croit déjà savoir. En conférence, j'aime faire la chose suivante. Poser une question en arrivant. Test. Faisons-le ensemble. Quels sont les noms des trois bateaux de Christophe Colomb lors de l'expédition de 1492? Ne prenez que 3 secondes pour les dire, pas une de plus, et passez à la suite. Un grand nombre d'entre vous n'a pas pu répondre, sauf les férus d'histoire ou celles et ceux qui ont vu un document récemment sur le sujet. C'est normal. Pour tout vous dire, je viens de vérifier sur Internet car j'avais un doute sur le nom du troisième navire. Cependant, quand j'ai vu le nom, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, je le savais ». Voici un concentré pur de connaissances rétrospectives. Je viens de me dire « je le savais », alors qu'avant de regarder, je ne le savais pas. On aurait pu me laisser 3 heures devant ma feuille que je ne l'aurais pas plus trouvé. C'est en le voyant que j'ai vu que c'était familier. Je l'ai déjà vu au cours de ma vie, mais je n'ai pas fait l'effort de vraiment le mémoriser. Le problème, c'est que, comme je croyais le savoir, je ne vais pas y prêter plus attention maintenant. Donc je ne vais toujours pas le mémoriser. C'est à moi de faire l'effort de me dire « Non Fabien, tu ne le savais pas, donc intéresse-toi à ces noms pour enfin les retenir. » D'ailleurs, je ne vous ai toujours pas dit la réponse. C'est fait exprès. Pour vous titiller un peu plus longtemps. Imaginez maintenant si j'avais commencé ce paragraphe par « Saviez-vous que les 3 bateaux qui accompagnaient Christophe Colomb lors de l'expédition de 1492 s'appelaient la Santa Maria, la Niña et la Pinta ?» Vous seriez-vous dit « Je le savais ?» Il y a fort à parier que oui. Lorsque je fais ce genre de test lors de mes conférences, c'est jusqu'à 90% de la salle qui admet ne pas avoir la réponse à la base, mais qui aurait cru le savoir. L'ultra-crépidarianisme, la peur de montrer que l'on ne sait pas, la connaissance rétrospective, voici les ingrédients qui me font dire que le savoir, c'est le pouvoir. Et par extension, être sincère sur ses propres connaissances est un autre pouvoir. Mais ça faisait trop long pour un titre de chapitre. Ces 3 éléments font que nous nous manipulons nous-mêmes, et pas dans le bon sens. Ce sont évidemment 3 portes grandes ouvertes sur les manipulations extérieures. En effet, nous savons toujours, au fond de nous, ce que nous connaissons réellement ou pas, ce que nous maîtrisons ou pas. Si une personne semble s'y connaître plus que nous sur un sujet que nous ne maîtrisons pas, alors nous allons lui prêter du crédit de manière quasi automatique. Cet effet est sublimé par le lieu, la circonstance ou la casquette de l'individu. Je ne parle évidemment pas de se protéger du soleil, mais bien de sa fonction ou de son titre. Sinon, on peut aussi parler de casquette, mais j'ai peur de ne pas m'y connaître assez, justement. En admettant que l'on ne manque pas de connaissances sur un domaine ou pour prendre une décision, on évite de se faire manipuler par notre propre mensonge. Si quelqu'un me demande d'adhérer à son avis sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais que j'ai faim de connaître, alors je serai tellement embêté qu'il y a de fortes chances que je le suive, alors qu'il est possible que cette personne n'en sache pas plus que moi, ou au contraire qu'elle se soit rendue compte que je n'y connaissais pas grand-chose. Un avis pour tous ? Terminons sur un souvenir très marquant pour moi. Tout commence lors des manifestations contre le mariage homosexuel où des experts de toutes sortes prenaient la parole à ce sujet dans les médias. C'était le début des années 2010 et il fallait absolument avoir un avis. D'ailleurs, si on n'était pas pour, alors on était automatiquement contre. Avoir un avis devenait une obligation. J'étais pour ma part complètement pour et j'argumentais en faveur du mariage pour tous. Pourtant, même sur ce sujet, je n'aurais pas dû avoir d'avis du tout. Pas dans le mauvais sens du terme. Dans le sens où je n'étais pas concerné, donc mes arguments étaient du vent. Je croyais savoir quelque chose. Et c'est Alexandre Astier qui a le mieux résumé le recul nécessaire à avoir sur ce que l'on croit savoir pour parler de ces événements. Dans une interview qu'il a donnée pour le journal 20 minutes, à la question « Que pensez-vous du mariage homosexuel ?», il répond « Si les homos ont envie de se marier, je ne peux pas en débattre. Parce que je ne suis pas suffisamment homo pour savoir ce que ça veut dire que d'avoir envie de se marier. Je fais confiance aux homos pour savoir que s'ils demandent à se marier, c'est qu'ils en ont besoin. Après, ça ne me regarde plus, quoi, j'en ai rien à foutre. Le truc, c'est que là, il y a un truc qui s'appelle la morale et qu'il y a une catégorie de la population qui essaie d'imposer sa morale aux autres alors que ça ne les regarde pas. Belle leçon d'humilité. Au lieu de dire « bien sûr qu'ils ont le droit », il dit en substance « ils savent mieux que nous, les hétéros non concernés directement parce que non homosexuels, ce dont ils ont besoin ». Les points à retenir. En étant honnête sur l'état de vos connaissances, vous êtes moins manipulable. Se connaître et s'assumer permet de garder le contrôle et d'éviter les prises de position qui pourraient vous nuire ensuite au travers de vos mots ou de vos actes.